Bienvenue.
Très heureux de vous retrouver. On reprend notre thème des émotions. On a commencé à les ouvrir un petit peu, on a commencé à soulever le couvercle. On va creuser encore un peu plus profondément.
Alors, je suis sûr que déjà vous avez eu des expériences intéressantes en soulevant le couvercle.
Eric a décrit très très bien la dernière fois que nous sommes une âme. Vous savez, l'âme, c'est comme un organe et les émotions sont les nerfs de l'âme en fait. Regardons un peu le rôle de nos nerfs par rapport à notre corps. Les nerfs par rapport à notre corps sont une vraie bénédiction de la part de Dieu parce qu'ils servent à nous protéger. Bien sûr, ce n'est pas toujours agréable parce qu'ils transmettent la douleur à notre cerveau, mais ils envoient un message de danger. Si par exemple je me brûle, mes nerfs normalement vont réagir et me dire « enlève ta main, tu es en train de te brûler ». La douleur va me protéger.
Ouais.
Si quelqu'un a malheureusement cette maladie qu'on appelle la lèpre, c'est ce qui est attaqué, les nerfs ne vont plus réagir et ces personnes-là vont se brûler et donc avoir des blessures qui vont vraiment être
profondes.
Un danger pour leur corps. Donc vraiment, le feu, la lèpre sont des exemples qui nous permettent de comprendre quelle est l'importance des nerfs pour notre corps. Et bien les émotions, vous pouvez vous faire un parallèle exactement de la même façon. Les émotions sont les nerfs de votre âme.
Ouais.
N'en ayez pas peur, n'en ayez pas peur. C'est pas toujours agréable, peut-être qu'elles vont vous transmettre des sensations de douleur, mais elles vont vous protéger.
En fait, souvent on a été enseigné, ne faites pas confiance à vos émotions, et méfiez-vous-en. Et donc en fait, on a une compréhension assez négative, et tu es trop émotif, sois plus raisonnable. Donc c'est comme si la raison devait dominer sur les émotions. Alors je comprends pourquoi on dit cela, et jusqu'à un certain point c'est vrai, il faut pas toujours suivre les émotions, il faut comprendre les choses qui se passent.
Mais pas que ce soit elles qui nous dirigent.
Voilà, il ne faut pas que ce soit elles qui nous dirigent. Mais en même temps, elles sont là pour une bonne raison.
Oui.
Et donc, il faudrait peut-être arrêter de toujours les voir d'une manière négative, mais comprendre au contraire qu'elles sont là pour nous donner un supplément d'informations qui va nous être utile.
Retour dans notre exemple.
Absolument.
Jésus. Notre modèle parfait, Jésus. Regardons si Jésus a ressenti de la frustration, par exemple.
Alors, on vous donne quelques secondes pour y réfléchir, mais... moi, j'aime énormément Jésus parce qu'il n'avait pas la langue dans sa poche. Il était capable de parler avec spontanéité et franchise et clarté. Et il communiquait au niveau des émotions. Donc oui, il a exprimé de la frustration avec ses apôtres, avec ses disciples. Il a aussi exprimé de la frustration avec la génération dans laquelle il était parce qu'elle résistait, elle n'acceptait pas la vérité. Et on est surpris d'entendre cette liberté de ton que Jésus pouvait avoir.
Quand il dit « sépulcre blanchi, race de vipère », etc., il devait être frustré quelque part à ce niveau-là.
Et puis, on voit des fois que les batailles qu'il y avait constamment entre ses apôtres...
Le fatiguaient
un petit peu. Et donc, il n'avait pas peur de communiquer ses émotions à ceux qui l'entouraient.
Et la douleur. Est-ce qu'il a ressenti de la douleur, par exemple?
Alors, bien entendu, je voudrais vous laisser quelques secondes pour y réfléchir. Mais oui, on voit Jésus avoir de la douleur dans le jardin de Gethsémané. On voit, bien entendu... Jésus exprimait sa douleur quand il est condamné, quand il est à la croix, quand il est en train de porter le péché de l'humanité sur lui. Et bien sûr, Jésus exprime sa douleur sans retenue.
Quand la sueur se transforme en sang, c'est un signe médical biologique qui dénote un extrême stress, en fait, une extrême douleur, la douleur portée à l'extrême.
Et Zaïdis, c'était un homme de douleur habitué
à
la souffrance. Donc, on voit que c'était quelque chose auquel il était habitué et qu'il savait gérer.
Et dont on a le témoignage dans la Bible. Et
Esaïe
nous en parle. Indignation.
Alors, l'indignation, c'est une colère, je dirais, positive. Est-ce que vous voyez Jésus être indigné par quelque chose? On laisse quelques secondes pour y réfléchir. Mais je crois que la plupart d'entre vous avaient à l'idée cette image de Jésus qui patiemment tresse un fouet, puis qui chasse les vendeurs du temple, qui ont encore une fois aussi des fois été indignés des réactions des gens autour de lui, spécialement les pharisiens, les sadducéens. Oui, Jésus a exprimé de la colère, une colère qui était juste, et Jésus n'a pas péché en exprimant la colère.
Ce n'était pas une colère qui le dominait. Il
Absolument.
A pris le temps de tresser ce fouet. Il n'était pas submergé par ses émotions, ce n'était pas ses émotions qu'il contrôlait.
Tout à fait.
Il était en contrôle, mais il a exprimé de l'indignation, une forme sanctifiée de colère.
Exprimer nos émotions d'une manière équilibrée ne nous réduit pas. Quand Jésus exprime au Père sa douleur à la croix, il dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Eh bien, ce n'est pas un péché. il est dans l'expression de ce qu'il ressent. Quand il exprime son indignation, ce n'est pas un péché non plus. Ça pourrait peut-être être considéré aujourd'hui comme un péché, ce qu'il a commis quand il a renversé les tables des changeurs. Et pourtant, ce n'en est pas un, puisque Jésus est sans péché.
Donc moi, j'ai l'impression que ce qu'on fait, à cause de notre culture, de tout ce qu'on a vu, c'est qu'on, comme si on mettait des bouchons, en fait, sur nos émotions, comme si on mettait un couvercle, qu'on essayait de les...
comprimer.
En utilisant l'excuse de la maîtrise de soi, mal comprise, d'étouffer tout ça.
De les réprimer, de faire en sorte qu'elles n'existent pas, qu'elles n'ont pas le droit de s'exprimer. Et en fin de compte, bien, ce qui se passe, c'est que quand on bouche toutes ces émotions qu'on ne peut pas, on ne sait pas comment les exprimer d'une manière saine et équilibrée, et respectueuse de l'autre, évidemment, eh bien, en fait, on a un mécanisme de cocotte-minute. Vous savez tous ce que c'est qu'une cocotte-minute. Vous savez, quand on cuit des aliments sous pression, avec de la vapeur, etc. Et ce phénomène de cocotte-minute, eh bien, c'est comme un système de sécurité que Dieu a créé en nous. Parce qu'à un moment, toutes ces émotions, eh bien, si elles n'ont pas un moyen de s'échapper, eh bien, elles nous détruisent. Elles nous rendent amères, elles nous rendent avec toutes
elles
sortes de frustrations. Elles rongent à l'intérieur. Et en fait, il y a deux moyens principaux par lesquels la cocotte-minute, vous savez, si, quand j'étais petit garçon, je regardais ce petit sifflet qui tournait à toute vitesse. Eh bien, en fait, cette soupape de sécurité qui laisse les émotions s'échapper, ça peut être soit la tristesse, la peine, la douleur, et donc cela s'échappe sous des larmes. Souvent, c'est quelque chose qui se produit avec les femmes, mais pas uniquement. Les hommes aussi ont
avec
cela.
Avec un trop-plein d'émotions, la cocotte a besoin que la pression sorte et les émotions vont s'échapper avec les larmes. Et on va se retrouver à pleurer, à sangloter. Et si on nous demande, mais qu'est-ce qu'il y a ? Ben, j'en sais rien, je ne sais pas expliquer. C'est un trop-plein d'émotions qui, avec la vapeur qui s'échappe au niveau de la soupape de sécurité, comme tu dis, les larmes.
Donc, si vous êtes constamment en train de pleurer, que vous ne savez pas pourquoi, cela peut signifier qu'en fait, eh bien, il y a trop d'émotions contenues qui n'ont pas été exprimées d'une manière saine. Et donc il faut, c'est comme une alarme qui dit, mais il faut apprendre, je ne sais pas comment communiquer mes émotions. Puis souvent plus pour les hommes, mais encore une fois des femmes peuvent exprimer comme cela, ça peut être cette colère qui, ça monte, ça boue, puis d'un seul coup, c'est une énorme explosion. Et cette colère-là, c'est plus de l'indignation, c'est la colère dont la Bible dit qu'elle n'accomplit pas la volonté de Dieu, parce que c'est une colère qui détruit tout sur son passage. On ne sait plus ce que l'on dit, on ne sait même plus pourquoi on est en colère, parce qu'il y a tellement d'émotions mélangées que peut-être ce qui a déclenché la colère, ça n'avait rien à voir. C'était juste une peur, c'était juste une tristesse. Et puis, c'est une explosion qui fait peur à ceux qui sont autour de nous, qui peut blesser notre conjoint, blesser nos enfants, nous blesser nous-mêmes. Et donc, cette colère-là, on n'en veut pas. Elle n'est pas là pour construire. C'est un danger.
Quand la cocotte explose, vous comprenez très facilement, on comprend très facilement que ça n'aide pas à construire le couple. Mm-hmm. Ça n'aide pas à se sentir en sécurité. Ça crée vraiment un climat de peur. Mm-hmm. On ne sait pas comment gérer ça. C'est destructeur. Donc pour éviter que la vapeur ait besoin de s'échapper par la soupape de sécurité, il vaut mieux commencer à travailler, à ouvrir chacune de ces émotions.
Absolument.
Qu'on puisse les gérer, apprendre à les maîtriser. Et l'influence que ça aura sur votre couple sera non mesurable, tellement ouais. ça va vous aider. Parce qu'en fait, quand on est au niveau de l'explosion, on ne peut rien faire. Comme quand on était dans la danse de la peur. Quand vous êtes rentré dedans, il n'y a plus moyen d'en sortir. Il n'y a pas moyen de trouver une solution. On va avoir mal. On va se faire du mal pour en sortir. Quand il y a explosion ou de larmes ou de colère, on va se faire mal.
Absolument. Il n'y a pas de communication puisqu'il y a une seule réponse, ce sont les larmes ou la colère.
Mm-hmm. Vous voulez bien à nouveau vous y pencher et travailler tous les deux là-dessus ? Mm-hmm. On va vous demander de réfléchir et aux questions qu'on va vous donner.
Alors, prenez par exemple une situation pour laquelle dernièrement vous avez explosé. Soit, comme on l'a expliqué, au travers d'une colère qui vous a dominé, soit une explosion de larmes qui vous a dominé aussi. Et puis, vous avez été vraiment emporté par cela. Et maintenant, on voudrait vous appeler à y réfléchir. Pensez aux émotions, en fait, qui étaient en dessous. Pourquoi ? Posez-vous une question. Mais pourquoi est-ce que j'ai eu cette explosion de larmes ou de colère ? Et puis, écrivez-le. Et faites une petite carte, un petit dessin, si vous voulez, de votre âme, avec les émotions qu'il y a dedans, et essayez de regarder comment ça se passe à l'intérieur.
Ce qui était caché à l'intérieur, en fait. Si vous n'avez aucune idée de quelles émotions peuvent exister, ben, on vous encourage à rechercher sur Internet, à faire une liste, amusez-vous à remplir une feuille de papier avec plein d'émotions, même si vous n'avez aucune idée si vous les avez déjà rencontrées ou pas, mais juste faites des listes d'émotions qui vous viennent d'idées, recherchez-en si vous n'en avez pas assez, et puis entourez par exemple celle que vous avez ressentie en c'est prenant ça, cet exemple. Quelle que soit la forme que vous voulez, vraiment creusez, parce que si vous y passez que 2 ou 3 minutes, vous n'allez pas trouver, mais trouvez un moyen qui va vous permettre d'exprimer les émotions qui étaient cachées sous cette explosion.
Alors, quand vous avez fait cela, eh bien, tous les deux, parlez-en. Parlez-en, prenez du temps pour écouter votre conjoint, comprendre ce qui s'est passé dans le cœur de votre conjoint, et ne cherchez pas une solution à ce moment-là, ne cherchez pas à juger, vous êtes juste là pour écouter et apprendre. Alors, prenez chacun votre tour, bien entendu, mais vous êtes là pour découvrir ce qui se passe à l'intérieur du cœur de votre partenaire, de votre conjoint, et pour certains, ça va être une révélation. Je suis sûr que beaucoup de conjoints se disent « mais ça fait des années que j'attends cela, que enfin il ou elle m'ouvre son cœur, que j'y ai accès ». Et peut-être que certains se disent « mais moi, je n'ai jamais rien ressenti ». Ou... En fait, c'est parce que vous avez fermé à clé votre âme depuis tellement longtemps. Laissez le Saint-Esprit vous aider à ouvrir cette porte et vous allez voir qu'en fait, il y a toutes sortes de couleurs, toutes sortes de choses que vous aviez réprimées et que le Seigneur veut vous apprendre à gérer.
Tout un univers à découvrir. Hein?
Et votre conjoint va être votre meilleur partenaire dans cette aventure.
Regardez Jacques 1:20. Qui dit que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu, on parle ici de l'explosion, celle qui détruit. C'est vraiment pour vous éviter ces explosions qu'on veut vous aider à décortiquer, à trouver les émotions qui sont cachées en dessous.
Et vous allez voir que ce travail ne sera pas seulement une bénédiction pour vous, mais qu'en grandissant, en prenant de la maturité dans ce domaine, vous allez aussi bénir vos enfants. Et si vous lisez Éphésiens 6:4, vous verrez que là aussi, il y a un domaine de croissance. Quand vous êtes à l'aise avec vous-même dans vos émotions, vous allez bénir votre conjoint et puis vous bénirez aussi vos enfants qui vont vous voir exprimer vos émotions et qui vont grandir eux-mêmes dans l'expression de leurs propres émotions.
Je vous conseille de prendre une boîte de mouchoirs en papier avec vous quand vous faites cet exercice, mais que le Seigneur vous bénisse.
Voilà, bon courage. Et même si pour celles d'entre vous, vous ne savez pas trop comment ça va se passer, faites confiance au Seigneur.
À bientôt.
Merci.